bonsoir et bienvenue dans ce second numéro de Histoire Nocturne. Ce soir, vous allez suivre une adaptation qui vous plonge une fois de plus au cœur même du crime. Raoul Villain, un petit, un frustré, il tue un grand homme politique, un visionnaire d'une sincérité absolue, Jean Jaurès. Les bras tendus vers le ciel, une femme hurle dans la rue.
Ils ont tué Jaurès ! Ils ont tué Jaurès !
La foule s'arrête et commence à converger vers elle, qui se tait maintenant, hébétée. Que s'est-il passé ? Le 31 juillet 1914, 21h40, 146 rue Montmartre, Café du Croissant, 2e arrondissement. L'homme qui n'a pas eu de cesse de combattre la guerre, ce fléau de l'humanité, vient de s'écrouler une balle en pleine tête. Il n'a pas eu le temps de finir son dessert. Selon les dires du gardien de la paix qui a arrêté le meurtrier en fuite, le quartier était en ébullition ce soir-là, il y avait un monde fou sur les boulevards. C'était orageux. Située au cœur du sentier, la rue Montmartre existe depuis Louis VI le Gros, à deux numéros du café qui passe dans la seconde à la postérité, fut imprimé le J'accuse de Zola. Ce n'est pourtant ni dans la France du XIIe siècle, ni dans celle de l'affaire Dreyfus que je vous emmène. Nous sommes en plein été 1914, l'été qui va précipiter la belle époque dans l'horreur de la Grande Guerre. La femme qui hurle
« Ils ont tué Jaurès !»
se trompe sur le « il » au pluriel. L'assassin semble avoir agi seul, comme Ravaillac, comme Lee Harvey Oswald. Le premier fut écartelé en place de grève, le second abattu deux jours après son arrestation à Dallas. L'assassin de Jaurès, Raoul Villain, le bien nommé, aura plus de chance. Il sera acquitté. Le 31 juillet, l'Autriche a déjà déclaré la guerre à la Serbie. La machine infernale des alliances, triple entente contre triple alliance, qui va conduire à la mondialisation du conflit, est enclenchée. Plus rien ne pourra l'arrêter. Le 3 août, l'Allemagne déclarera la guerre à la France. Voici ce qu'écrivait Jean Jaurès dans son dernier article de l'Humanité. Le plus grand danger n'est pas dans les événements eux-mêmes, il est dans l'énervement qui gagne, dans l'inquiétude qui se propage, dans les impulsions subites qui naissent de la peur, de l'incertitude, de l'anxiété. Ce qui importe avant tout, c'est la continuité de l'action, le perpétuel éveil de la pensée et de la conscience ouvrière. Là est la vraie sauvegarde, là est la garantie de l'avenir. Contre l'esprit nationaliste et même revanchard de l'époque, le perpétuel éveil de la pensée et de la conscience ouvrière ne suffira pas, hélas, à éviter le pire. La loi défendue par Clémenceau, qui allonge à 3 ans la durée du service militaire obligatoire, a été votée l'année précédente. Visiblement, on a envie d'en découdre. Jaurès était farouchement contre cette loi, et Villain, sans doute, farouchement pour. C'est peut-être à ce moment qu'est née chez lui l'envie de le faire taire. En 1912, Poincaré a fait de la fête de Jeanne d'Arc une fête nationale. Jeanne d'Arc, quelle drôle de coïncidence. C'est la sainte vénérée par le collège Stanislas, dont aujourd'hui encore la devise inspirée du chevalier Bayard est « Français sans peur, chrétien sans reproche ». Le jeune Raoul Villain y est pion dans les premières années du siècle.
Il est sérieux, doux et poli. Oui, oui, il est poli,
disait l'un de ses collègues, mais également ses supérieurs. On le renverra même pour son manque d'autorité. Il faut toujours se méfier des timides, ils peuvent avoir envie d'un destin. Qui sait si celui que son acte d'accusation en 1915 présente comme un homme falot ne se prenait pas pour le fils naturel de Jeanne d'Arc et de Bayard, rêvant de bouter les Allemands hors de France ? Un homme seul ne peut pas grand-chose contre l'opinion de tout un peuple. Surtout quand ce peuple est excité par une presse qui, en ce bel été 1914, flatte son désir de revanche en réveillant les blessures des humiliations passées. La femme qui hurle
« Ils ont tué Jaurès !»
quand il s'écroule sous ses yeux, elle a donc raison. Ce pluriel désigne tous ceux, députés, ministres, journalistes, industriels, intellectuels, militants, qui, croyant le jour de gloire arriver, appellent le peuple à la vengeance en exacerbant son instinct guerrier. Exalté par cette fièvre nationaliste, persuadé qu'il doit éliminer un traître à sa patrie, presque un Allemand, Raoul Villain assassine le pacifiste qui cristallise ses frustrations et ses haines.
Dans des circonstances aussi graves que celles que nous traversons, j'ai voulu supprimer, oui, j'ai voulu supprimer un ennemi de notre pays, de notre pays,
confirmera-t-il au juré. Il sera acquitté à la quasi-unanimité par la cour d'assises de la Seine après avoir passé toute la guerre en prison. Comble de l'injustice et du scandale, c'est la veuve de Jaurès qui paiera les frais du procès. Toute la journée du 31 juillet, Jaurès a bataillé pour empêcher l'irréparable. À la Chambre des députés et au ministère des Affaires étrangères. Le soir, il dîne au café du Croissant, histoire de reprendre quelques forces, avant de se lancer dans la rédaction d'un long éditorial appelant à la mobilisation générale pour la paix. Il s'attable avec quelques amis journalistes à gauche de l'entrée du café. Le tribun socialiste, député du Tarn, est assis dos à une fenêtre ouverte qui donne sur la rue Montmartre. À 21h40, après avoir écarté le rideau dans l'embrasure de la fenêtre, Villain tire 2 balles dans sa direction avant de s'enfuir par la rue Réaumur où il est reconnu, assommé à coups de canne par un employé de l'Humanité avant d'être immobilisé par un policier. En tirant sur Jaurès, Villain voulut sans doute éliminer d'un coup, d'un seul, le socialiste républicain, le pacifiste, l'internationaliste, le fondateur de l'humanité, l'intellectuel. Jaurès concentre sur sa personne toutes les figures que Villain déteste. Donc feu sur le socialiste républicain, lui qui se sent catholique patriote. Feu sur le pacifiste, lui qui adhère à la Ligue des jeunes amis de l'Alsace-Lorraine où l'on communie dans la haine de l'ennemi allemand. Feu sur le fondateur de l'humanité, lui qui se sent proche de l'action française. Feu sur le normalien philosophe qui a rédigé une thèse intitulée « De la réalité du monde sensible », lui le fils d'un greffier de Reims qui n'a jamais été doué pour les études. Feu sur le professeur camarade de promotion de Bergson, lui qui n'a été qu'un pion de collège chahuté. Feu sur le défenseur des ouvriers et des syndicalistes, lui qui avait commencé des études d'agriculture. En 1918, on tuera Jaurès une seconde fois. Un de ses fils tombera en effet pour la France. Villain, lui, passera sa guerre au chaud et à l'arrière, protégé par les barreaux de sa prison. Après avoir touché un petit héritage, il s'installera à Ibiza où les habitants le surnomment très vite « El loco del puerto !» le fou du port, à cause de ses comportements souvent excentriques. Il finira ses jours au soleil et sera exécuté en 1936 sur une plage des Baléares par des anarchistes espagnols qui ignoraient sans doute le crime dont il avait été absous, mais le soupçonnaient d'être un agent franquiste. La table du café du Croissant sur laquelle Jaurès s'est effondré a été offerte en 1938 à la ville de Champigny-sur-Marne, dont le maire était un proche du député de Carmaux. Elle est désormais classée monument historique. Le café a été rebaptisé la Taverne du Croissant. Un peu d'internationalisme éloigne de la patrie, beaucoup y ramènent. Raoul Villain ne pouvait pas comprendre cette phrase de Jaurès. À l'heure où l'Europe est en train de construire une véritable fédération d'États, c'est à nous d'y réfléchir. C'était Histoire Nocturne. Vous pouvez retrouver toutes ces affaires dans Paris, capitale du crime, de Frédéric Dieffenthal et de Paul-Henri Moinet, un ouvrage publié aux éditions Livres de Poche. Je vous dis à demain soir pour un nouveau dossier. Sur ce, je vous la souhaite douce et bonne cette nuit, bien sûr. Bye bye.